Radio Roland des Bois, l'émission des habitants du quartier Pierre-Rolin.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'émission Radio Roland des Bois. Cette expérience radiophonique a été réalisée en collaboration avec Radio Campus Amiens. Dans cette émission, nous allons explorer la thématique des discriminations dont, à un moment de votre vie, vous avez été victime ou actrice. Une différenciation, une moquerie malveillante, un jugement, une incompréhension qui a amené à un mal-être. Durant 2 semaines, des habitants du quartier Rolin, des artistes, une journaliste se sont réunis à l'espace Jacques Tati pour discuter de ces questions et des vécus de chacune. Ces semaines furent riches en rencontres avec des associations, des actrices politiques et culturelles. Ces échanges qui ont amené à débattre autour de nos opinions diverses, parfois contradictoires, à discuter de ces sujets délicats. Pour cette émission radiophonique, qui est aussi et surtout un journal, nous avons écrit, lu, dessiné, bu des litres de café et de thé. En pleine canicule, nous avons aussi sué des litres d'eau, partagé des moments de joie et d'espoir. Que ces paroles vous touchent et ouvrent l'envie d'un mieux vivre ensemble.
Pour commencer, nous allons écouter un micro-trottoir réalisé par Destiny, Maïssa, Jemima, Chouchanik, Zaina, 5 stagiaires de seconde qui ont été présentes pendant les 2 semaines.
Bonjour, aujourd'hui avec le Centre culturel Jacques Tati, nous sommes partis interviewer des gens du secteur pour avoir leurs avis sur la discrimination. Souvent, les personnes n'avaient pas forcément un avis sur ce sujet, ils ne savaient pas réellement quoi répondre comparé à d'autres qui, eux, étaient plus informés sur ce sujet, avec des arguments ou des témoignages.
Si je vous dis discrimination, quel est le premier mot ou la première situation qui vous vient à l'esprit ?
On est tous des terriens avant tout.
C'est le mal du siècle, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont pas bien. Il y a aussi des adultes qui se sentent pas bien. Hein. Mais il y a plein de jeunes qui se sentent pas bien parce qu'à l'école, ils parlent du harcèlement. Ils le vivent, mais ils le vivent tout seuls, ils le vivent très mal. Et voilà, c'est la discrimination parce qu'on se fait moquer, parce qu'on est gros, parce qu'on est black, parce qu'on est, voilà, toutes sortes. Voilà. Et ça, on manque de tolérance dans notre société, et ça, c'est dommage. Voilà. Moi, j'ai vécu d'autres choses dans ma jeunesse, et c'était super entre jeunes, voilà. J'ai appris à être tolérante avec les autres.
Selon vous, les femmes et les hommes sont-ils traités de manière égale aujourd'hui ?
Oh, oui. Enfin, oui, en principe, oui. Hein.
Vous avez des arguments ?
Non, j'en ai pas. J'ai pas d'arguments du tout, non.
Avez-vous déjà vu quelqu'un être traité différemment à cause de ce qu'il est ?
Oui, tout à fait. Dans quelles circonstances, je ne pourrais pas vous répondre parce que ça remonte et puis je l'ai remis en place.
Et vous, vous en pensez quoi ?
Bah, moi, je suis pas raciste, je suis tolérante, quoi, on va dire. J'ai moi-même 2 petites filles qui sont moitié arabe, moitié française, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
Pourquoi certaines personnes sont encore victimes d'homophobie selon vous ?
Ah, bah là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais je ne suis pas médecin.
Selon vous, quelles formes de discrimination sont les plus fréquentes ?
Bah, moi, j'en connais pas. Là. Après, certains endroits peut-être, mais pas ici, je sais pas.
Pourquoi certaines personnes sont encore victimes d'homophobie, selon vous ?
C'est par rapport au quartier, peut-être, hein, je sais pas. Je peux pas trop vous dire de... Je sais pas.
Si je vous dis discrimination, quel est le premier mot ou la première situation qui vous vient à l'esprit ?
Discrimination par rapport aux gens ou par rapport au secteur ?
Par rapport aux gens.
Aux gens ? Ben c'est, je sais pas, c'est peut-être un peu la peur, non ? Je sais pas. La peur des gens. Je sais pas.
Selon vous, quelles sont les formes de discrimination les plus fréquentes ?
Ah, la couleur, les origines, malheureusement. Alors qu'on ne connaît même pas les gens, on les juge à leur aspect. Et maintenant, vous avez beaucoup de gamins, filles ou garçons, qui s'habillent justement pour paraître ce qu'ils ne sont pas. Donc ça, c'est pas une bonne chose non plus. Il faut se faire voir tel qu'on est. À moins d'être complètement barge, c'est la meilleure façon comment dit-on, de rentrer en contact avec quelqu'un. pas paraître ce qui n'est pas.
Pour conclure, cette interview nous a permis de savoir différents points de vue sur la discrimination et de mieux comprendre la manière dont chacun perçoit ce sujet.
Leurs avis nous ont permis de mieux comprendre que nous n'avons pas tous quelque chose à dire sur la discrimination. Cette expérience nous a montré que l'importance de parler, d'écouter les autres et de s'informer afin d'éviter les jugements et
pour
de respecter
suite,
tout le monde.
On laisse la parole à Françoise qui va nous lire son texte « Discriminer et ou discriminant ».
Un sens assez large du verbe « discriminer » employé scientifiquement est de faire entrer dans un ensemble suivant des critères spécifiques. Par exemple, trier, c'est-à-dire discriminer, les pommes suivant leur race ou leur spécialité gustative. Mais quand on applique ça à des êtres humains, c'est une autre affaire. On connaît tous certains genres de discrimination, le racisme, l'homophobie, et suite. Nous obéissons à des préjugés et surtout nous mettons tout un groupe dans le même panier. Si l'on y réfléchit un peu, le champ est bien plus vaste. Certains ont du mal à comprendre l'extension de cette notion. La société ou individuellement, nous créons tous des catégories avec l'intention d'opposer les personnes les unes aux autres. Cela ne peut amener que des tensions et des blessures. Voici trois exemples. Je n'aime pas les noirs, ils sont sales. Oh là là, il n'est pas de ma classe sociale. Je ne lui parle pas. Ces gens qui viennent à notre guichet, la CAF ou une autre, ne comprennent rien. Oh, je laisse tomber. Pourrions-nous faire mieux? Avoir des comportements différents en tentant d'être des alliés. C'est d'abord une question de respect. De toute façon, au cours de la vie de chacun, nous pouvons devenir des discriminants ou des discriminés. Voici deux exemples. Ces petits mots, soi-disant anodins, mais qui blessent la personne qui les reçoit. Alors, nous faisons de la discrimination. Avoir un sentiment d'infériorité à cause de la façon dont on est accueilli, alors nous nous sentons discriminés. Non pas mettre à part, mais respecter. Et si ça nous chante, avoir un peu de curiosité pour les personnes que l'on considère trop différentes ou qui ont des réactions surprenantes. Nous n'avons pas tous la même éducation, les mêmes chemins de vie. Mais nous sommes tous des humains de cette terre.
Merci beaucoup, Françoise. On écoute maintenant le texte de Brigitte, lu par Daniel.
Je vais vous lire un texte écrit par Brigitte Cardos. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des robots, on n'est pas des pantins, on est des personnes humaines. Tous les vécus vus devant mes yeux. On m'a fait la misère, comme aux animaux à qui on fait beaucoup de mal, qu'on abandonne. Tout cela me révolte. Aidez-vous les uns les autres. Restez solidaires. Il faut aider les personnes sans abri. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont rien. Il y en a un qui est mort à la rue. Ça me fait mal. Comment les aider? Par exemple, en leur tendant la main, en se serrant les coudes. C'est pas chacun pour soi. Aidez votre prochain.
Nous avons eu l'opportunité de poser quelques questions à Anne-Sophie Vosari. Béatrice, Sonia, Brigitte et Daniel ont réalisé cette interview.
Pouvez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle Anne-Sophie Vosari, je suis adjointe au maire, déléguée à l'égalité, l'accès aux droits et l'éducation populaire, et je suis également élue référente de proximité sur le quartier Saint-Pierre.
Ça veut dire quoi, être élue à l'égalité, l'accès aux droits et l'éducation populaire?
Alors ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire porter les politiques municipales en lien avec l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, l'aide aux victimes de discrimination et de violence, et notamment de violence sexistes, sexuelles et de genre. ça veut dire lutter contre le non-recours, hein, le fait que des personnes qui ont pourtant des droits n'y accèdent pas, notamment parce que il y a des freins à l'accès aux droits. Et ça veut dire développer une politique d'éducation populaire. Alors l'éducation populaire, bah, peut-être que vous savez déjà ce que c'est, parce qu'en fait c'est ce que vous faites ici, me semble-t-il. L'éducation populaire, c'est un projet d'émancipation individuelle et collective qui vise à ce que chacun, chacune puisse comprendre le monde dans lequel il vit et pouvoir participer à sa transformation, à son changement. Donc voilà, être élu à toutes ces thématiques-là, c'est finalement avoir des sujets transverses à développer et pour que ça infuse sur l'ensemble de la politique municipale, en concertation bien sûr avec les élus du conseil municipal, les adjoints et monsieur le maire.
Je ne sais pas si ça va se répéter un peu de dire quelles sont vos missions. Est-ce que vous pouvez...
Je peux ajouter des choses. Par exemple, donc moi je suis adjointe, mais je travaille avec des conseillères municipales déléguées. Donc Anne-Marie Carton-Poulain, qui est conseillère municipale déléguée à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et de genre, et Sylvie Bayon, qui est conseillère municipale déléguée aux droits humains. On travaille toutes les trois, donc chacune a Anne-Marie Carton-Poulain et Sylvie Bayon, elles ont ces missions-là spécifiques, mais c'est des choses qu'on développe. Donc par exemple, sur la question des droits humains, parce que ça j'en ai pas encore parlé juste avant, ça va être le fait de déployer une politique qui fait d'Amiens une ville refuge, notamment pour des personnes étrangères sans papier, les personnes à la rue. Donc ça va être en lien avec aussi ce que fait Nina Bray, qui est adjointe à l'action sociale et tout le travail du CCAS, donc du Centre communal d'action sociale. Voilà, les droits humains, ça va être la défense, par exemple, des droits des personnes LGBTQIA+, des étrangers, comme je le disais, enfin voilà, des gens dont parfois les droits sont menacés. Du coup, mon parcours professionnel, moi j'ai fait des études de sociologie. Enfin, avant ça, j'ai fait des études de sciences politiques. Après, j'ai fait des études de sociologie. J'ai fait une thèse de sociologie, donc j'ai un doctorat en sociologie, après ça, donc j'ai été chercheuse, enseignante-chercheuse, contractuelle, donc ça veut dire que j'ai conduit des recherches sur différents sujets, et notamment la question des inégalités de genre et des inégalités femmes-hommes, c'était au cœur de mes recherches, et je travaille toujours encore sur les sujets d'inégalité femmes-hommes, sur les questions de famille, sur les questions de santé mentale aussi.
Quelles sont vos priorités pendant le mandat ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà assez rapidement et avec le soutien des services de l'État et de la préfecture notamment, c'est l'ouverture d'un centre LGBTQIA+, sur Amiens. Donc, il y a plusieurs assos de lutte contre les discriminations et de défense des droits des personnes LGBTQIA+, qui attendent finalement... d'avoir un lieu pour se retrouver, déjà parfois même ne serait-ce qu'un local, parce qu'il y a des associations qui n'ont pas de locaux pour recevoir, pour conduire leur activité, pour stocker leur matériel, un lieu qui permette de travailler collectivement entre associations, d'avoir des projets communs, et puis un lieu qui permette un espace de convivialité, toujours un peu dans l'esprit de ce que je vous disais sur l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'ensemble on est quand même plus fort, et pouvoir monter des projets ensemble, c'est une... piste qui me semble essentielle. On porte aussi le projet d'ouvrir une maison des droits des femmes et de l'égalité, qui fasse un lieu de permanence. Alors il en existe déjà, les associations assurent parfois déjà ça, mais c'est de centraliser ou du moins de fédérer ou de rajouter un espace de baie d'accès aux droits des femmes. Et puis que ça soit associé à un espace ressource, un espace d'exposition permanente, pour sensibiliser les publics et notamment les plus jeunes, les scolaires, le périsco, les centres sociaux sur les publics des centres sociaux sur les enjeux d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations. Non, il y a un autre sujet qui me semblait intéressant de vous dire parmi les priorités, c'est la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, notamment suite à tout le scandale du périscolaire à Paris. Et en fait, on sait que c'est un fait de société. C'est pas des faits divers, en fait. Hein. C'est vraiment une réalité sociale, malheureusement. Il y a 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles. Alors aussi bien à la maison, hein, donc dans des cas d'inceste, que bah, aussi de la part de personnes qu'ils fréquentent, et notamment, malheureusement, bah, les services municipaux en sont pas, on peut pas se dire que le risque n'existe pas. Et donc il faut prendre en compte ce risque et développer un programme de formation spécifique à destination des professionnels. Échanger aussi auprès des parents pour les rassurer, pas seulement les rassurer, mais tout simplement leur expliquer ce que la municipalité met en place, échanger avec elle et avec eux sur leurs inquiétudes. Et puis, dans un dernier temps, penser à une façon d'intervenir auprès des enfants, de faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. D'ailleurs, on me demandait qu'est-ce qui avait été déjà fait depuis le début du mandat, et ce qui a notamment été fait, c'était accorder une subvention complémentaire au FEVAS. Le FEVAS, c'est le Festival du film d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que c'est vraiment un outil qui nous semble essentiel. Parce que c'est par l'éducation, en fait, qu'on va lutter contre les discriminations, contre certaines croyances, certains stéréotypes, certaines représentations.
Pour lutter contre la discrimination, quelles sont les solutions aujourd'hui au niveau de la ville ?
Alors, la lutte contre les discriminations, ce n'est pas à proprement parler une compétence municipale. C'est-à-dire que ce n'est pas à la ville de mener cette politique-là. Pour autant, ce n'est pas interdit. Donc, nous, on souhaite pleinement s'engager sur ce domaine-là. Une façon de faire, c'est il existe déjà un observatoire municipal des discriminations qu'il faut refonder ou du moins réanimer, puisqu'il y a eu une première étude qui a pu être faite il y a 2 ans, il me semble. Donc voilà, c'est refonder cet observatoire déjà pour pouvoir mieux mesurer, quantifier, objectiver les faits de discrimination. Et puis mieux orienter finalement l'action publique.
Merci. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
On vous propose tout de suite une pause musicale avec Oshi et son morceau Amour Censure.
Au placard, mes sentiments. Surtout ne rien dire et faire semblant. Être à part, un peu penchant. Au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai de sa main un jour, c'est sûr. Qui je suis vraiment? Faire taire la rumeur. Les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur. On souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai de sa main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour
avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après?
Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
Vous êtes de retour sur Radio Rolin des Bois. Passons maintenant la parole à Monique. Elle vous propose sa chronique « Apaiser le feu ».
Apaiser le feu de l'angoisse, de la haine ancestrale, afin d'affronter l'avenir de manière plus paisible pour l'enfant ou l'ado qui entend trop souvent des propos haineux. Connaître les faits, comprendre et essayer d'apaiser. Apaiser le feu. Envahi par l'angoisse, par les mots anxiogènes reçus par les médias et qui n'apportent aucune solution au malaise général, je voudrais trouver les mots que tout le monde attend afin de porter une note de musique douce, apaisante, après des siècles trop souvent frappés par les guerres et la haine. Tout ceci considéré, et c'est là la difficulté, il devient urgent d'instaurer l'apaisement. Bref, restons terre à terre en pensant à autre chose comme par exemple la musique. Ne dit-on pas qu'elle adoucit les mœurs, mais pas n'importe laquelle, c'est chacun ses goûts. Mon père chantait « Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et partageaient un beau matin leur espoir et leur chagrin, le bonheur serait pour demain. » La cuisine de chaque pays en particulier peut rapprocher les gourmets, non ? L'art, la peinture, la sculpture, l'échange d'idées de chaque pays peut apporter un plus à chacun. Je pense qu'il y a de quoi imaginer, dans d'autres activités, quelques idées pour apaiser les esprits, et sans parler de l'amour, bien sûr, il s'agit de savoir s'il existe des frontières, hein ? Faut-il adopter un changement de langage journalier où j'ai pu constater de manière des jeux en s'engueulant pour le plaisir. Un amusement, il paraît. Voilà. Mais l'art des mots qui apporte une musique qui touche le cœur, apaise l'esprit et amène le sourire n'est-il pas préférable à la haine ? J'aimerais tant que la compétition soit installée pour imaginer le plus beau des poèmes dont l'harmonie des mots nous berce avec
Ensuite,
douceur.
Ensuite, nous écoutons Aurélie et son texte « Le handicap invisible ». Quand la souffrance ne se voit pas.
Le handicap invisible, quand la souffrance ne se voit pas. Tu n'as pas l'air malade. Cette phrase, de nombreuses personnes l'entendent chaque jour. Elle résume à elle seule toute la réalité de l'handicap invisible. Une souffrance réelle, des limitations concrètes, mais une apparence qui ne laisse rien paraître. Et c'est précisément cette invisibilité qui rend ce type de handicap si difficile à vivre au quotidien pour ceux et celles qui la portent et qui sont souvent incompris. Une réalité massive et méconnue. On associe encore trop souvent le handicap à l'image d'une personne en fauteuil roulant. 80% des handicaps sont invisibles. Par exemple, un ou une de vos collègues et peut-être en situation de handicap sans que cela ne se voit. 15% des personnes handicapées le sont de naissance ou avant leurs 16 ans. Une personne sur deux serait en situation de handicap au cours de sa vie de manière temporaire ou durable. Moins de 5% des personnes en situation de handicap moteur utilisent un fauteuil roulant. Je le rappelle, cela signifie dans votre entourage, au travail, dans les transports, dans une file d'attente. Je le rappelle, cela signifie que dans votre entourage, au travail, dans les transports, dans une file d'attente, ou même un de vos voisins peuvent faire face à des difficultés quotidiennes sans que rien, en apparence, ne les trahisse. Alors la question, qu'est-ce qu'un handicap invisible ? Le handicap invisible désigne tout handicap qui ne se détecte pas à première vue et dont la conséquence reste difficile à percevoir de l'intérieur tant que la personne n'en parle pas ou n'est pas mise en difficulté. La loi de l'handicap de 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'un trouble cognitif, durable ou définitif, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Parmi les grandes familles d'handicap invisibles, on trouve les maladies chroniques invalidantes, fibromyalgie, sclérose en plaques, endométriose, qui concerne 1,5 à 2,5 millions de femmes en France, maladies de Crohn, diabète, cancer, épilepsie, maladies cardiaques. On a les troubles neurodéveloppementaux, l'autisme, les TDAH, troubles 10, donc la dyslexie, dysphasie, dysphasie, dyscalculie, la dysgraphie ou encore la dysorthographie. Ainsi que les troubles psychiques, dépression, troubles bipolaires, troubles anxieux, phobie sociale, troubles du comportement alimentaire. Puis les troubles sensoriels, perte auditive, partielle ou progressive, troubles visuels non apparentes. Et enfin, les troubles musculo-squelettiques, lombalgie chronique, tendinite invalidante. Un quotidien sous pression. Les conséquences sont que tous les handicaps invisibles sont aussi réels que celles d'un handicap visible. Elles peuvent se manifester par une fatigabilité intense, des troubles de mémoire et de concentration, des difficultés à prendre des initiatives, une ou plus grande vulnérabilité au stress ou encore des douleurs chroniques qui fluctuent d'un jour à un autre, qui peuvent aller jusqu'à un burn-out. Une personne peut sembler aller bien un jour, puis être incapable de fonctionner le lendemain. Ce que son entourage interprète parfois comme de l'inconstance ou une mauvaise volonté, qui en réalité est le reflet d'une maladie qui ne se régule pas selon un calendrier prévisionnel. Certaines situations touchent aussi l'intimité. La maladie de Crohn peut contraindre une personne à se rendre fréquemment aux toilettes. L'endométriose génère des douleurs que les femmes apprennent souvent à encaisser en silence depuis leur adolescence. Un trouble anxieux sévère peut rendre une simple réunion ou un trajet de transport profondément éprouvant. Au travail, un obstacle invisible mais pesant. Le monde professionnel est l'un des terrains où les conséquences de l'handicap invisible se font le plus ressentir. 93% des recruteurs estiment que les personnes en situation d'handicap invisible font face à plus de difficultés en entreprise. En France, en 2024, 2,8 millions de personnes en situation de handicap sont en âge de travailler. Les discriminations peuvent être formes variées, préjugés sur la capacité, moquerie, mise à l'écart, voire un harcèlement. Briser le silence, déclarer ou ne pas déclarer. La question du dévoilement est au cœur du vécu des personnes concernées. Parler de son handicap, c'est prendre le risque d'être mal compris, jugé ou traité différemment. Ne pas en parler, c'est affronter seul des difficultés que l'entourage ne peut pas percevoir ni accompagner. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle. Malheureusement, chaque personne doit trouver son propre équilibre en fonction de son environnement, de ses besoins et de sa confiance envers les personnes qui l'entourent. En revanche, la société dans son ensemble a un rôle à jouer. Changer de regard, ne pas juger trop vite, garder à l'esprit que la souffrance n'a pas toujours besoin d'être visible pour être réelle. C'est la première étape vers l'inclusion véritable. Ce que l'on peut faire, que l'on soit employeur, collègue, proche ou simple citoyen, quelques réflexes qui peuvent changer beaucoup de choses. Éviter les jugements hâtifs sur ce que l'on peut voir. Ne pas remettre en question la parole d'une personne sur sa propre santé. Être à l'écoute sans attendre que la souffrance soit prouvée. Informer et sensibiliser dans les environnements professionnels et scolaires, soutenir les démarches de reconnaissance administrative pour ceux qui le souhaitent. Petit rappel pour faciliter l'insertion. Il existe en France la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, la RQTH. Une demande volontaire permettant de bénéficier d'aménagements de poste, de soutien à l'emploi ou de formation adaptée. Mais beaucoup de personnes ignorent encore ce dispositif ou hésitent à s'y engager par crainte d'être étiquetées. Il ne faut surtout pas rester seul. L'isolement social peut être très pesant. La difficulté à s'entourer de personnes bienveillantes peut être le premier frein à notre époque. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le thème de l'handicap invisible.
Béatrice nous propose un écrit très personnel sur la bipolarité.
La bipolarité, pour moi, c'est les montagnes russes. Les émotions qui me submergent et qui m'envahissent, mais dont j'ai besoin pour vivre et ressentir. Non à la camisole chimique qui peut enfermer dans une platitude extrême un sentiment que l'on renvoie d'être ailleurs. Mais vous foutez la paix aux autres. Les traumatismes durant l'enfance engendrent des dysfonctionnements au niveau neuronal, des neurotransmetteurs par le biais de la sérotonine, noradrénaline, dopamine. Ça, il faut l'entendre par hasard. En tout cas, on ne me l'a jamais dit, ni même le diagnostic. Dépossédé de moi-même, avec déjà un père omnipotent à la base et une mère bien plus qu'absente. Une fratrie suivant le mouvement, une famille entière décomposée, détruite, dont je me sens à la fois la victime facile et consentante et l'enfant symptôme. Mais au diable tout cela. Liberté intérieure, je te cherche depuis si longtemps. Je me déleste comme une tortue avec une extrême lenteur de mes chaînes intérieures que l'on m'a inculquées, enfoncées au plus profond de mon cerveau. Pas de bol, je refuse de subir. Et je refuse de voir et de laisser subir quoi que ce soit, sur qui que ce soit, sans s'ouvrir ma gueule de lionne à grands coups de trompe
d'éléphant. Enfin, pour terminer cette émission, Charline a voulu prendre la parole sur un sujet peu connu, les zoos humains.
Les zoos humains. Suite à notre semaine à l'espace Jacques Tati, plusieurs intervenants sont venus nous parler de la discrimination. Nous avons rencontré, entre autres, Juju Ebombo Magambi, qui nous a parlé de l'esclavage et de son abolition en France en 1848. Il nous a raconté aussi l'histoire des zoos humains. Je ne connaissais pas cette terrible histoire. C'est en 1877 que les premiers humains furent exposés au jardin d'acclimatation à Paris. En 1906, à Amiens, à la Petite Autoie, où se trouve aujourd'hui le parc zoologique. Pendant 6 mois, une centaine de personnes furent exhibées dans le village sénégalais. Une mise en scène, tout était fait pour avoir l'impression de vivre une expérience authentique. Les visiteurs jetaient des pièces dans un bassin pour voir les ados plonger les récupérer, car bien sûr, seul le chef du village était rémunéré en 3 fois, au départ du Sénégal, à l'arrivée en France et à la fin de l'exposition. Le chef offrait souvent des ustensiles de cuisine aux hommes du village comme rémunération. Plusieurs villages de ce type ont existé dans le monde, ce qui généra plus de 400 millions de visiteurs qui ont pu voir 35 000 figurants entre 1800 et 1998. Ça donne froid dans le dos. Ce qui est le plus ignoble, c'est qu'en 1994, à Fort-Saint-Pierre, près de Nantes, un village ivoirien sponsorisé par les biscuits Bamboula, sous couvert de l'Office du tourisme ivoirien, a été reconstitué pour offrir un spectacle aux visiteurs. Leur passeport ayant été confisqué sous prétexte qu'une éperde, ces pauvres gens étaient soignés par des vétérinaires, payés un quart du SMIC et n'avaient évidemment aucune couverture sociale. Un collectif a été créé pour faire cesser cette réserve humaine. Le concept des zoos humains a joué un rôle crucial à la formation des stéréotypes et des discriminations raciales au cours des 19e et 20e siècles. C'est déjà la fin de ce 3e épisode de Radio Rolin des Bois, une émission réalisée par les habitants du quartier Pierre-Rolin. On vous invite à rester à l'écoute de Radio Campus Amiens sur le 87.7 FM pour le prochain épisode. Il poursuivra ses réflexions sur le thème des discriminations.
Merci à Françoise, Monique, Charline, Daniel, Sonia, Brigitte, Sandrine, Aurélie, Béatrice, Noël, Destiny, Maïssa, Leslie, Jemima, Chouchanik, Zaina, Lizo, Jonathan, Camille, Rose et Aline. Et pour ce bel épisode de Radio Rolin des Bois, on se quitte en musique avec Suzanne et son titre « Je t'accuse ».
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume, et j'assume. Pour celle qui avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
Radio Rolin des Bois,
l'émission des habitants du quartier Pierre-Rolin.